Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive autour de Bordeaux avec le chanteur et compositeur Blik Bassi. Blik a grandi à Yaoundé, au sud du Cameroun. Avec son nouvel album, qui s'appelle 1958, il rend hommage à Oum Niobé, première personnalité politique à revendiquer l'indépendance du Cameroun. 1958, c'est l'année de son assassinat.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Blik Bassi, on redécouvre Bordeaux de l'autre côté du miroir et de la Garonne. Il est venu me cueillir à la gare Saint-Jean et on a filé dans sa voiture Touareg à la découverte de Darwin, une ancienne caserne réhabilitée en friche urbaine qui regorge d'activités et de fresques sur les murs qui nous alertent de l'urgence climatique. Blik chante, écrit et parle en bassa. C'est sa langue maternelle. Son nom, Bassi, ça signifie celui qui vient de la terre. À la dérive autour de Bordeaux, il a trouvé une terre inspirante, des utopies et des chemins nouveaux à l'image de cette ville où tout se transforme.
À la dérive avec Aurélie Sfez.
Moi, j'ai appris à jouer de la guitare en regardant mon oncle jouer. J'avais un oncle militaire qui était dans l'armée et qui avait une vieille guitare chez lui que je volais de temps en temps quand il allait bosser. Je prenais sa guitare et j'essayais de faire comme lui. Donc j'ai appris tout seul comme ça. Et d'ailleurs, mon oncle, quand il a vu que je commençais à jouer mieux que lui, il a commencé à cacher sa guitare comme si c'était l'aîné. Et en plus, mon oncle, donc pour lui, il doit jouer mieux que moi, quoi.
Dans notre TGV, oui. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Nous vous souhaitons une bonne journée.
Salut Blik.
Salut, ça va ?
Ça va, le bisou ?
Oui.
Lunettes contre lunettes.
Exactement.
Mais vos lunettes, elles sont imposantes.
Merci.
Enfin, il y a un truc avec vos lunettes.
Ah, merci.
Ah, non, merci. On dirait que vous allez partir dans l'espace.
Je suis déjà dans l'espace. Absolument.
Space is the place. Space is the place. Space is the place, yeah. Space is the place.
Bon, on est devant la gare de Bordeaux. Ça va vite maintenant, en fait.
Ouais.
Paris-Bordeaux, deux heures, ça va trop vite.
Ça, c'est vrai, ouais.
Il n'y a plus le temps du voyage long.
Mais en fait, c'est à l'image de notre société, tout va très vite et on se demande même où est-ce qu'on va.
On n'a pas le temps de regarder les paysages en deux heures.
Je pense que si on veut regarder le paysage, ce n'est pas vraiment avec le train aujourd'hui, surtout le TGV qui va très vite. Donc on l'est à... Bon, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je prends ma voiture et je roule, quoi. Et je m'arrête où je veux, sans direction. En plus, ça me donne une sensation de liberté, de juste prendre ma voiture et partir. Et en fait, ça, le fait de le faire me rappelle aussi l'importance de la mobilité, hein, pour chaque être humain, de pouvoir juste se lever et partir, et que les frontières, à un moment donné, n'ont vraiment plus de sens, et que l'humain, en fait, est fait pour partir d'un lieu à un autre. Et
on voit la transhumance humaine.
Absolument, et voir qu'aujourd'hui, les frontières empêchent beaucoup de partir, c'est un sujet qui m'interroge, parce que je me dis, nous sommes faits pour pouvoir partir à différentes échelles. On part de chez nous pour aller à la boutique d'à côté, pour aller un peu plus loin dans la ville d'après, et ainsi de suite, quoi. Parce que voilà, l'humain est fait pour complètement faire le tour de cette belle terre, planète dans laquelle nous vivons.
On est à la gare de Bordeaux.
Ouais.
Bordeaux, c'est ma ville.
Moi, je suis dans le coin depuis bientôt deux ans et j'avoue que je connais pas vraiment Bordeaux, quoi. J'ai parcouru le monde entier et quand je me déplace aujourd'hui pour aller m'installer quelque part, en général, j'aime vraiment que la dynamique parte vraiment des envies du moment, de l'énergie du moment et j'écoute la nature.
On y va ?
Ouais.
Vous êtes garé où ?
Juste là-haut.
Ok. Vous avez quoi comme voiture ? Je monte que dans des belles voitures, moi, Blik.
Attention. Pendant que je conduis, je réfléchis, je crée beaucoup en conduisant, en fait. À travers le rétroviseur, on peut voir le passé aussi. On arrive à voir le passé. Parce que chaque seconde qu'on passe, qu'on traverse un lieu, il fait déjà partie du passé. Et donc, comme j'aime conduire...
Vous avancez vers l'avenir en regardant déjà le passé.
Exactement.
Et dans la voiture, vous êtes au présent.
Oui, c'est ça.
Oh là là.
Donc, j'adore ça. Et donc, pour cela, je me suis pris une voiture qui me permette quand même...
D'aller d'une dimension à une autre.
Surtout de ne pas tomber malade parce que trop assis, parce que inconfortable. J'ai une routière. Hein. Maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne caisse.
Moi, j'ai connu Bordeaux, Blic, quand la pierre était noire.
Ouais.
Époque Chaban-Delmas, vous voyez.
Tout le monde me dit ça, oui. Tout le monde dit qu'il y a eu un travail incroyable et que Bordeaux a complètement changé. Et qu'avant, Bordeaux était gris. Tout ça a été complètement nettoyé. Et que du coup, ça donnait une autre image à Bordeaux.
Et ça donne même une autre lumière.
Une autre lumière, exactement. Quoi. Ouais. Moi, je n'ai pas connu cette époque. Je n'ai pas connu ce Bordeaux.
Les gens détestaient.
Ouais.
Tu viens de Bordeaux, quelle horreur. Ah, ouais. À Toulouse.
Il suffit parfois de quelques petites choses pour redonner une dynamique à la vie des gens, voir les choses sous d'autres cieux, quoi. C'est-à-dire juste une pierre qui a été nettoyée.
Un petit coup de peinture.
Absolument, on donne aux gens l'impression de vraiment revivre, quoi.
Ah, dans votre voiture, vous avez une pierre précieuse.
Ouais,
elle est grosse, hein.
Ouais, elle produit une belle énergie, je trouve.
Elle est rose, très rose. Vous connaissez son nom?
Non, même pas. Je l'ai ramassé. Il y a un ami qui déménageait un jour et qui, dans ses affaires, il y avait cette pierre qu'il voulait jeter. J'ai dit non. Moi, je l'aime bien et depuis, je l'ai prise. Elle est dans ma voiture. Elle reste dans ma voiture.
Elle va nous protéger?
Ouais.
Vous croyez aux pierres?
Ouais, je crois à l'énergie de la nature. Hein. Ça arrive après que j'ai été au départ catholique, protestant... Grâce ou à cause de mon père, j'ai changé cette fois d'église, quoi.
Cette fois
de religion, ouais. Dans le village, mon père avait construit, en fait, notre village. C'est un lieu que mon père avait acheté. Et pour le moderniser, il a construit une église, un marché, un hôpital, une école. Et nous, comme on était nombreux à la maison, il fallait faire de la chorale tous les dimanches pour faire venir les clients,
les fidèles clients.
Et donc, au départ, nous étions catholiques. Et donc, mon père a fait venir un prêtre qui, au bout d'un an, il s'est pris la tête avec le prêtre parce qu'il y avait un problème d'argent. Il l'a viré. Il a dit d'ailleurs, nous ne sommes plus catholiques, nous sommes désormais protestants. Il a fait venir un pasteur. Et au bout d'un an et demi, il s'est pris la tête avec le pasteur. Il a chassé. Nous sommes devenus baptistes. Il a fait venir un pasteur baptiste. Ils sont pris la tête au bout d'un moment. Il a chassé. Il a fait venir un pasteur de Témoins de Jéhovah qui nous a rebaptisés. Et on est devenus Témoins de Jéhovah. Ainsi, cette fois de suite, on a changé. Ouais.
Vous n'êtes jamais devenu musulman?
Non. Au Cameroun, en fait, dans le sud, moi j'ai grandi dans le sud du Cameroun, où en général, globalement, c'est vraiment chrétien, quoi.
Ouais, on alterne dans le christianisme, on tourne, quoi.
Dans tout le haut du Cameroun, tout le nord du Cameroun, c'est musulman. Et comme dans le sud, moi j'appartiens à la partie sud, donc du coup, en général, les gens sont chrétiens, quoi.
Yaoundé, ouais. Et autour.
Ouais, Yaoundé autour, Douala et tout.
Voilà.
Et aujourd'hui, je ne crois plus en ces différentes religions et je crois à la nature, quoi.
Et à la pierre magique. On va l'appeler la pierre de la voiture.
La pierre du Touareg. Est-ce que c'est un Touareg?
Ça s'appelle un Touareg, cette voiture?
Ouais, c'est Volkswagen Touareg.
Volkswagen Touareg. Ben, la pierre du Touareg.
Ouais, c'est ça.
Attends.
La pierre du Touareg.
On la remet à sa place. Allez, on y va. La pierre du Touareg.
Ouais. On peut commencer par Darwin.
Darwin?
Ouais.
Quel mystère. Vous savez comment ça s'appelle, ces petites maisons?
Non.
Toutes ces petites maisons qui font juste un étage, des échoppes.
Ok.
C'est typiquement bordelais, ça.
Ok.
Là, on est cours de la Marne. En fait, on va traverser la Garonne. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme morceau?
Est-ce que moi, j'ai de la radio? Est-ce que j'ai de la musique ici? Je pense même pas.
Non, mais je pense dans votre nouvel album, 1958.
Le second single qui est sorti, Ngwa.
Ngwa.
Qui veut dire mon ami, mon frère, c'est une petite appellation en langue bassa.
La langue bassa, C'est la langue que vous parlez?
C'est ma langue maternelle, c'est ma première langue et ouais, c'est la langue qui a structuré mon cerveau, quoi. Dans cette chanson, je m'adresse à Oumiobe et je lui dis qu'il est mon gwa, qu'il est mon ami, qu'il est mon frère. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre aujourd'hui. Il s'est battu pour des valeurs nobles. Il s'est sacrifié pour ses arrière-petits-enfants. Alors il est mon ami, il est mon gwa. Et à chaque fois, je décris vraiment des différents tableaux comme ça.
Qui s'est fait assassiner en 1958 dans la forêt. Oumiobe qui a réclamé l'indépendance du Cameroun et qui est devenu aujourd'hui une figure très forte, très respectée, alors que pendant des années, prononcer son nom, c'était interdit, c'était tabou.
Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire, lorsqu'on se met à lire ses écrits sous Macky, on se rend compte que c'était vraiment quelqu'un qui se battait pour des valeurs humaines, qui se battait contre le tribalisme, contre le racisme, quel qu'il soit, qui disait qu'en fait son combat n'était pas juste un combat pour la liberté du Cameroun, mais qui était un combat pour les droits en tant qu'humains de bénéficier d'un traitement égal.
On est arrivé. En fait, ce sont des anciens hangars, c'est ça?
Ouais. Apparemment, ça appartenait à des pompiers. Et donc, ils ont fait des travaux et c'est vraiment chouette, quoi, ce qu'ils en ont fait.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Darwin, comme nom?
Mais en fait, la première fois que je suis arrivé, je me suis dit que ça ressemblait à la reconstruction après que le monde capitaliste soit tombé. Et que les humains décident de reconstruire en fait un nouveau monde. Et moi, c'est à ça que me renvoie ce lieu, quoi.
Donc là, on arrive sur une dalle en béton.
On a l'impression que les travaux n'ont pas été achevés. Pourtant, en fait, c'est vraiment une volonté architecturale de vouloir le faire comme ça.
Derrière nous, c'est pas mal parce qu'il n'y a plus de toit.
Oui, c'est ça, en fait.
Il reste que les corps de bâtiment en friche.
À gauche, là, on voit là où il y a les vélos qui sont suspendus de l'autre côté. On a l'impression que c'est un peu un bordel et qu'on a oublié les vélos là-bas où on les a rangés en attendant que les travaux soient terminés. Mais en fait, non, c'est une volonté architecturale de faire comme ça. Et ça, je trouve ça super parce que ça nous sort aussi un peu du standard et du cliché et complètement une autre approche qui est complètement artistique, quoi. Et c'est ça que j'apprécie énormément aussi. Tout de suite, il me renvoie vraiment à la démarche que j'essaie d'avoir moi, c'est-à-dire tout simplement d'essayer de faire des choses à ma manière comme je voudrais et en m'émancipant un peu du standard établi, quoi.
Avec écrit Darwin avec des cagettes, un grand singe énorme,
ouais.
Une espèce de King Kong, quoi.
C'est ça qui nous prévient un peu de l'état de notre, je pense, climatique actuelle. Et je trouve qu'il est vraiment super beau.
Et alors, ce qui contraste, c'est les gens assis sur des canapés chez Starfield, un peu chic, qui boivent du thé bio, dans la friche chic quand même.
Ouais, bien sûr. En fait, ce contraste, c'est ça qui rend encore le lieu beaucoup plus intéressant et plus beau. Hein.
On va par là ou par là-bas?
On peut aller par là.
À droite.
À droite, ouais.
Une bibliothèque.
C'est un lieu très, très, très fréquenté.
Alors là, il y a un trou.
C'est pour le skate, ouais. Qui vient rajouter avec toutes les couleurs qu'on a, les tags qu'on a sur le mur d'en face, qui n'ont pas été complètement refaits, et avec les tags et le skate, vient encore donner une véritable identité à ce lieu. En fait, c'est vraiment ça, c'est que le lieu a une identité hyper forte.
On va s'asseoir là. On va se mettre dans le trou. C'est une espèce de puits aux chênes.
Ouais.
La seule chose qui me rappelle Cameroun, c'est le lion qui est dessiné au milieu du... qui est au centre là, du trou là.
Parce que c'est l'emblème du Cameroun, les lions indomptables. C'est un peu l'équipe nationale de football du Cameroun, s'appelle les lions indomptables. Et en général, le lion est une espèce de mascotte de notre équipe.
Et les chênes autour, dessinées.
Moi, ce que j'aime bien avec les chênes, c'est que selon les perspectives, elles nous renvoient à différentes choses. Hein. C'est-à-dire autant elles peuvent nous renvoyer à l'esclavage, qu'elles peuvent nous rappeler aussi l'importance et le fait que nous soyons complètement liés les uns aux autres et que nous, en tant qu'éléments de la nature, les animaux, les herbes, les arbres et tout, sommes complètement formant un espèce de grand tout.
Et de ces chênes sortent des fleurs.
Ces liens produisent de belles choses, quoi. Ouais, certainement.
Vous êtes un lion, Big Bassi.
Ouais, Cameroun, nous sommes tous des lions. C'est un peu notre totem, et ouais. Il est autant calme qu'il peut être féroce, quoi.
En plus, vous avez des dreads noires et blondes.
C'est ça, ouais.
C'est vrai que c'est assez félin.
Un peu, ouais, absolument.
Comme un gros chat.
Exactement.
Vous vous caressez, mais dans le sens du poil.
Absolument. Long yes, we nenge li kere wongi. Papire din chomo ki ki bitong bimo. Inge mwen mo ki bi perne ni munu wongi. Inyo be abi wel ni bisgi wongi.
Nova à la dérive avec Aurélie Sfez.
Et avec Blic Bassi, on a continué à explorer la friche industrielle qui a le vent en poupe en ce moment à Bordeaux, la bien nommée Darwin. N'en déplaise aux grincheux qui lui reprochent sa population de hipsters et autres branchés. Pour Blic Bassi, Bordeaux tout nouveau tout beau, c'est un Eldorado. On a croisé des menuisiers et l'homme qui a construit la terre en 6 jours avec ses mains pour défiler à la marche pour le climat. On a vu des bateaux et un rocher. Le rocher Palmer, c'est la salle de concert qui redynamise la ville de ce nom avec ses transats et ses siestes musicales. À la dérive, avec Blic Bassi, ça continue en français, en bassa, ici dans le sud-ouest de la France et là-bas au Cameroun, mais toujours à l'ouest.
Big Bassi. Ce livre que vous avez écrit, Le Moabi Cinéma, ça raconte l'histoire de Boom Biboum. Ouais. Et Boom Biboum, c'est un peu vous. Un petit bout.
Ouais, il y a juste un tout petit bout. Mais Boom Biboum, ça peut être moi, ça peut être des milliers de Camerounais, de Congolais, de Gabonais. Quoi. Ouais.
Tempête pour deux chaussettes.
Je m'appelle Boom Biboum. Mes amis et mes proches m'ont surnommé Mingri ou Petit Homme à cause de ma silhouette fluette et de ma petite taille. Je suis né à Yaoundé, au Cameroun, dans une famille de 16 enfants. Mon père, ancien gouverneur de province sous la colonisation française, était devenu commissaire de police dans le nouvel État indépendant. Chrétien, profondément croyant mais polygame, il avait deux femmes, ma mère et sa coépouse. Chacune lui avait donné 8 enfants et elles en étaient fières. Connaissant son caractère abrasif, elle plaisantait en disant qu'il avait été ravi de cette situation car il n'aurait ni toléré ni supporté la moindre querelle domestique causée par une inégale efficacité de sa précieuse et mâle sémence.
Votre papa, il était fonctionnaire de police, Big Bassi.
Oui. Oui, bien sûr. Mon père était fonctionnaire de police et c'était un homme d'affaires aussi parce que parallèlement à son métier de policier, il était propriétaire d'un hôtel, d'un restaurant et de plusieurs plantations de cacao et de plusieurs appartements, de plusieurs maisons. C'était un véritable homme d'affaires, oui.
Donc il y a du vrai là-dedans.
Absolument, oui. Au départ, bien sûr que dans le livre, il y a quelques bribes que je sors un peu de ma vie aussi, mais aussi des choses qui sont complètement... viennent de ma création, quoi. Ouais.
Vous parlez aussi bien le bassa que le français.
Oui, le bassa, c'est ma première langue. Les langues disparaissent parce qu'il n'y a pas un vrai travail d'entretien de ces langues. Or, elles sont vraiment, pour moi, elles participent non seulement à garder le lien avec les traditions, avec ce que nous sommes, avec notre histoire, mais également, elles participent essentiellement à la construction de nos différents imaginaires. Moi, par exemple, lorsque je compose, lorsque j'écris ou à chaque fois que je me mets à penser, je pense d'abord en bassa. Et penser en bassa, en fait, me renvoie aussi chez moi, me renvoie ailleurs, me donne d'autres images, me fait tout de suite remonter des odeurs, des choses qui sont complètement différentes, quel que soit le lieu où je vis, avec mon histoire et avec ce que je suis réellement. Quoi.
C'est une langue qui sonne. Il y a un rythme de la langue.
Chaque langue pourrait sonner. En fait, ça dépend du traitement qu'on lui apporte. Ça dépend de l'approche qu'on a avec la langue. Tu sais, au Cameroun, il y a encore quelques années, la majeure partie des tribus chantaient en langue douala, parce que pour les Camerounais, la langue qui sonnait, qui grouvait, qui était jolie, c'était le douala. Et tout le monde chantait en douala jusqu'aux années 90 où, avec mon ancien groupe notamment, on s'est réapproprié les langues et on s'est dit qu'on pouvait les valoriser à travers la musique. Mais pour cela, il fallait un vrai travail d'écriture, de construction, de l'adaptation de la langue parlée, la langue chantée. Et donc, ce travail-là, on a commencé. Moi, j'ai commencé très tôt à le faire avec le bassa et du coup, j'ai réussi, j'espère, aujourd'hui à pouvoir faire chanter cette langue. Basol va bi wel inyu min kan mi long yes inyu min kan mi bon bes palal bes va bi wo umye va bi wo va bi wel li inyu li ten ches ni ba kai ni ni bi yon mu manda ma ya mamba ri ni nyai Territorial
par là-bas, on essaie là-bas.
Ouais.
Encore le singe, Darwin.
Ouais. Le singe de Darwin qui est là, les mains en l'air, pour nous interpeller avec le regard là.
Ah ouais.
Ouais. Je pense que ça doit symboliser un peu l'appel à l'urgence climatique, quoi. Parce que quand on regarde ça tout de suite, je pense que ça nous interpelle quelque part.
Vous, vous avez vécu dans ce village, au milieu des animaux?
Moi, j'étais dans la grosse forêt équatoriale et là-bas, oui, il y avait singes hérissons, porcs épics, c'était plus des choses comme ça qu'on allait chasser d'ailleurs. Je sais faire des pièges, j'allais souvent avec mon oncle faire des pièges, j'allais chasser la nuit. Oui, j'ai grandi, en fait, j'ai passé pas mal d'années, notamment avec mon oncle, avec mon grand-père, au village, quoi.
Gardien, studio de massage.
Ouais, studio de massage, et souvent, ils font aussi des tatouages ici.
Ouais, on dirait une petite caravane.
Ouais, ouais, très original.
C'est tellement mignon.
Ouais.
Nous vous souhaitons une bonne année, épanouissante, enrichissante, bienveillante.
Instant à partager.
Il y a un truc très enfantin, je trouve, ici. On a l'impression que c'est des enfants qui ont fait des cabanes.
Ouais, c'est ça, ouais. Absolument.
Là, il y a des gens qui font du feu. Là, vous n'êtes pas timide, on peut aller parler aux gens.
Ouais, bien sûr. Si j'étais un animal, je serais un homme. Ah, ça c'est bien ça.
Et vous, si vous étiez un animal? On a dit un lion, mais...
Ouais, peut-être un lion. Ouais.
Donc il y a des gens qui font du feu dans un bidon.
Peut-être la cheminée, c'est peut-être parce qu'il fait froid.
Bonjour. On fait une petite émission de radio. C'est pour Radio Nova. Qu'est-ce que vous faites?
On brûle du bois.
Oui, ça, on avait remarqué que vous brûliez du bois dans des bidons. Mais...
C'est des chutes, en fait.
D'où elles viennent, ces chutes?
De l'atelier.
C'est un atelier de quoi?
De menuisier.
Ici, il y a un atelier de menuisier?
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait.
Mais il y a tout dans ce Darwin.
Ah, ben oui. C'est complet.
Comment vous vous appelez?
Patrick.
Patrick, je suis avec Big Bassi.
Enchanté.
Big Bassi, qui est musicien.
D'accord, je ne connaissais pas.
Et il habite à Libourne.
En plus. D'accord.
Comment vous pouvez décrire cet endroit, Patrick?
Fantastique.
C'est vrai?
Ouais, vraiment, fantastique. Retour aux sources.
Ouais. C'était quoi avant ici?
Une base militaire.
Donc c'est une caserne militaire qui a été abandonnée?
Tout à fait, ouais.
Et est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que c'est éphémère, Darwin?
Non, ça va rester comme ça. Tout ce côté-là, sur la gauche, oui, ça va rester.
Ça me fait du bien, ça me réchauffe là, quoi.
Patrick, ça fait combien de temps que ça existe, Darwin?
5 ans.
5 ans?
25 ans, ouais.
Est-ce que vous étiez à Bordeaux avant, quand
c'était
tout noir et qu'on vivait dans des caves?
Bon, ça va faire depuis que je suis tout petit. J'ai 40 ans.
Vous préférez le nouveau Bordeaux?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, ça respire. C'est beau.
C'était comment avant?
C'était noir, c'était sombre. C'était peut-être limite insalubre même. Les quais n'étaient pas très propres. Ouais.
C'était triste. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est beau maintenant. Ouais. Vous avez fait les quais? Ça respire.
C'est lumineux, mais même ce que je disais à Blic, on a l'impression qu'il pleut plus.
C'est ça. Limite.
Limite, il fait beau. C'est San Francisco, quoi, Bordeaux.
Tout à fait.
Vous ne faites pas partie des grincheux qui disent c'est gentrifié.
Si, enfin moi je suis ici, mais je suis locataire. Mais après, voilà, c'est le jeu, quoi. Moi, je suis bien dans ma ville. Et puis voilà, ça fait des nouvelles têtes. C'est ce qu'on appelle faire tourner le stock.
Voilà. Il est où, votre atelier? Il est là-dedans, alors?
D'ailleurs, ouais.
Mais c'est super beau, on dirait des chais, en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est beau. Ouais.
C'est assez poétique, hein?
Ouais. En fait, moi, je suis en train de chercher un bout de bois qui correspondrait peut-être à faire sur lequel je mettrais mes pédales de guitare.
Ah, il va vous trouver ça.
Ah, super, oui. Allez. Super.
Au revoir, Patrick.
Merci.
Merci pour le bois.
Merci.
Et Darwin est bien.
Darwin est bon.
Vous m'avez dit qu'il y avait un salon de tatouage ici?
Oui, souvent, hein, mais je pense que ça dépend des moments. Il n'est pas ouvert tout le temps.
Vous êtes tatoué, vous?
Oui.
Dans votre livre, vous dites que quand vous êtes arrivé au Cameroun avec vos tatouages, les gens l'ont mal pris. Oui, vous êtes occidentalisé.
En fait, c'est mon père. Hein. C'était arrivé avec mon père. La première fois, je suis arrivé avec... une boucle d'oreille, il m'a dit il faut enlever ça, on met pas ça chez moi. Et je lui ai dit ok papa, mais pour que j'enlève ça, il faut que tu argumentes et que tu me convainques. Pourquoi on ne met pas ça chez toi? Convainc-moi. Et donc pareil, après je reviens avec des tatouages. Pareil, il me dit ça, on fait pas ce genre de choses chez moi. Si vos histoires des occidentaux là. Et en fait, il se trouve que ma grand-mère, c'est-à-dire sa mère, qui avait plus de 100 ans, elle est morte à 110 ans.
Elle était supra-tatouée.
Tatouée de tout son corps. Et là, je lui dis, papa, grand-mère est tatouée.
Et là, il savait ça.
Non, en fait, il a bloqué, parce que quand je lui dis ça, pendant presque 2 minutes, le temps pour lui de se dire que, mais en fait, oui, sa propre mère, c'est des tatous. Mais comme c'était fait de manière traditionnelle et que c'était dans la tradition, pour lui, c'était pas des tatouages, en fait. Pour lui, c'était des dessins de fleurs sur tout le corps de sa mère. Il voyait pas ça comme des tatouages. Et donc, quand je lui rappelle ça, il bloque, il me dit, il balbutie, il me dit, non, on met pas ça chez moi. Or, je vois bien le malaise qu'il avait parce que, bon, là, il venait de se rendre compte que...
il était pris dans ses propres contradictions.
Il venait de découvrir, à plus de 70 ans, que sa mère était tatouée.
Que sa mère était une vraie punk.
C'est ça.
Il y a quoi là-bas? Science et... Science and talks.
Yeah. Nye Emble, à la dérive. Mono Radio Mansevele, Radio Nova. Ici, hein.
Ah ouais, c'est super beau.
Ah ouais, c'est super.
Vous voulez pas faire un clip là?
Non, là, ouais, grave. Sincèrement, ça donne vraiment envie de faire un clip ici. C'est incroyable. Ben, c'est un espèce de grand hangar. On voit des canapés, pareil, canapés en cuir, dans ce lieu qui paraît complètement comme un hall de gare qui a été complètement refait. Et c'est super beau, quoi.
Ouais. Il y a un petit chapiteau avec des toiles blanches.
Chapiteau au milieu, ouais.
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes. Il est plus intelligente,
mais celle qui s'adapte le mieux au changement.
Charles Darwin,
ouais.
Il y a une espèce de montgolfière, une vieille voiture.
Mm-hmm. Le monsieur, il travaille.
Il y a des petits manèges.
Il fait quoi?
Bonjour, je travaille à Radio Nova.
Oui,
et vous, vous faites quoi?
Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Il est encore temps.
Il est encore temps.
Qui organise les grandes marches pour le climat. Je suis le concepteur de la boule et on l'a fabriqué à plusieurs, qui représente...
La Terre,
voilà. Je suis en train de fabriquer le chariot sur lequel va reposer notre boule que je vais normalement faire tourner. Donc, et tout avec des matériaux de récupération. Tout, vous voyez, c'est des trucs que je récupère de partout. C'est très abîmé la dernière manifestation. Vous voyez, c'est une structure. Alors, on va peut-être éclairer. Avec des cerceaux de bois, des lattes de bois. Donc, on la porte à dos d'homme. Normalement, à 4, on peut la porter. On l'a faite en 6 jours, comme le Seigneur a fait la planète. Et là, on a mis de quoi la porter sur les épaules.
Donc, vous êtes un peu Atlas, vous portez
voilà,
un peu
c'est
la,
voilà,
la
c'est
terre.
Les voilà. Pour bon, moi, ce que j'aimerais, ça c'est mon souhait, c'est qu'à la fin, on finisse par un grand clapping général de tout le carnaval et de tous les spectateurs pour protéger notre planète. Quoi. Enfin, pas la planète, parce qu'elle s'en sortira toujours, mais les humains qui sont dessus, et les animaux, et les oiseaux.
Elle est où l'Afrique, là, sur votre planète?
Cameroun.
Cameroun.
Voilà.
On fait le tour de la Terre très très vite.
Ouais. Ah oui, ça.
Centre-Ouest.
Ouais, c'est l'Afrique centrale. Ouais.
L'Afrique centrale, ouais. Ouais. Ici.
C'est un peu comme le Brésil, hein. C'est vraiment beaucoup de grosses forêts équatoriales. Et,
on non. arrache les arbres comme au Brésil, hein.
Oui, on vend beaucoup d'arbres. Ouais, ouais. Il y a une grosse exportation d'arbres et il y a une déforestation incroyable qu'on devrait arrêter. Quoi. Ouais.
De toute façon, c'est l'avenir. Hein.
Non, mais j'en suis persuadé.
Ouais, c'est l'avenir, bien sûr.
Par exemple, ici, là, à la pointe, là. Donc il y a la Somalie, l'Éthiopie.
Ça appartient aux Chinois, ils ont tout racheté.
Ouais, ouais, ils ont racheté toute cette partie-là, de la Corne de l'Afrique.
Ah, c'est
aussi, ouais. À Madagascar, ils sont très anti-chinois. Hein. Je crois qu'ils ont acheté beaucoup de terrain.
Ouais, ouais. Bon, on crie un peu après les Chinois. C'est vrai que les Chinois sont... Le truc, c'est que les gens aujourd'hui, les Africains aujourd'hui, acceptent de faire des deals avec des Chinois, des deals qui peuvent paraître grossiers, tout simplement parce que c'est un autre rapport avec les pays occidentaux. C'est-à-dire, les Chinois sont clairs. Ils disent, nous, on prend ça, on vous donne ça. Le problème, c'est que malheureusement, ce qui s'est passé avec les anciens pays colons, c'est qu'il y a eu, il n'y a pas ce rapport, il y a un rapport paternaliste qui crée un sentiment de détestation qui fait que les gens préfèrent encore traiter avec les Chinois. Parce qu'au moins, c'est clair, le Chinois, il te dit, je prends ta terre, je te construis de 10 hôpitaux, je fais des routes, tu fais machin, tes histoires que tu fais, ta culture, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Donc il faudrait qu'on redéfinisse un modèle de développement qui nous corresponde à nous, à ce que nous sommes réellement.
Ni pris en étau entre la Chine et l'Occident.
Pour que l'Afrique survive, ce ne sera ni avec la Chine ni avec l'Occident, ce sera avec elle-même.
Bassi, on va où alors maintenant ? La suite des événements.
Maintenant, nous allons chez Alric. C'est un lieu que j'ai découvert ici en été qui est génial en fait. Ils font des concerts tous les dimanches. Le lieu est super, c'est au bord de la Garonne.
C'est une guinguette.
Voilà, une guinguette et sincèrement, ils font une belle programmation.
Donc on peut y aller à pied d'ici. Hein ?
Ouais.
Moi, je me souviens, j'allais chez Alric à dos.
Ah ouais ? Donc ça existe depuis longtemps alors ?
Ouais. Tout ça a été réaménagé, donc je vais vous faire votre petite psychogéographie bordelaise.
Okay.
Blic, avant il n'y avait pas tous ces jardins là.
D'accord. Et ça a beaucoup changé.
Il y a les joggeurs qui joguent.
Ouais, c'est devenu un très beau jardin.
Est-ce que vous êtes à la dérive, Blic Bassi ?
À la dérive ?
Ouais.
À la dérive complètement. Une dérive positive, ouais.
Ah, une dérive dans le bon sens du terme.
Voilà. On dirait que c'est fermé chez Alric.
Ah non, c'est fermé chez Alric. On va regarder comme des,
ouais, concerts,
comme des prisonniers.
C'est pas souvent là, quoi.
Les concerts sont là, dans la cour.
Ouais, ouais. Et il y a plein de chaises.
Il y a des petites guirlandes lumineuses.
Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment super. L'emplacement est magique, quoi.
On voit les bateaux au loin.
Ouais.
On oublie que Bordeaux, c'est un port. C'était un port et un marché aux esclaves.
Oui, ça, je le sais, ouais. Ouais.
Ça vous
je sais que c'est une grosse ville... qui a contribué à cette période de pouvoir faire rentrer et partir les bateaux.
Bordeaux fut le quatrième port négrier de France. 150 000 esclaves furent déportés depuis la ville via 419 expéditions. Un drame qui se lit encore sur la signalétique urbaine. Ces militants de mémoire et partage espèrent sensibiliser les habitants de cette rue à l'histoire qu'elle porte. En l'occurrence, le nom de Joachim Lenné. Ministre sous la Restauration, l'homme aurait possédé des plantations à Saint-Domingue, un passé lié de près ou de loin à l'esclavage.
Je vais me faire écraser par un coureur. Non, mais sinon, on peut se mettre par là pour aller voir la vue, en fait. Bordeaux, de l'autre côté.
Dès que j'ordonne à mon cerveau de rentrer dans un moment d'écriture ou de composition... Tout sent la musique, quoi. C'est-à-dire des oiseaux que j'entends, des conversations, un klaxon. Et j'adore cette période parce que vraiment, parfois, une mélodie, un texte peut partir d'une odeur, d'un truc que je sens. C'est génial et ça démontre encore une fois que notre cerveau est vraiment commandé par nous. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis vraiment mis à... J'ai décidé que j'essaye tous les jours de ne créer que des hormones de bonheur, quoi.
Alors là, on voit la ville en face de nous. On voit Bordeaux en face de nous comme une espèce de maquette, un petit pop-up.
Ouais. En fait, je pense que le fait que je vive seul aussi fait que je passe beaucoup de temps juste avec moi-même, quoi. Avec la nature, sans aucun bruit, là où je vis, et comme si j'étais en perpétuelle méditation.
Vous avez même fait une chérie ?
Ma chérie, elle n'est pas avec moi, non, elle ne vit pas avec moi, elle vit dans un autre pays.
Pauvre Blic. Vous êtes abandonné ?
Pas du tout, la musique, elle est tellement présente que sincèrement, je pense que c'est aussi ces moments-là qui m'ont permis d'essayer de me trouver et de suivre le couloir de vie dans lequel j'essaye aujourd'hui de survivre et de suivre. Hein. C'est tout simplement de m'émanciper un peu du modèle standard de notre société. Un modèle qui est complètement érigé et auquel très peu échappe, quoi.
Et là, on va reprendre la voiture. C'est pas trop la nature, c'est la voiture.
Ouais. C'est la voiture. Bye, baby, sorrows. Divi Lord, divi live, divio. Divi on, divi sem, divio. Bye, divi pos, divi on, divi quiz, divio. Divi Lord, divi soros, divio. Nyuki ni che longi porol. Kini chol ni yomatai, new kini soros long imporola, new kini che long imporol, new kini chol ni yomatai, new kini soros long imporola.
Donc là, on se dirige à Senon.
Senon.
Senon, c'est la banlieue de Bordeaux.
Ouais, c'est la banlieue proche.
On longe les quais de la Garonne, avec ses usines et ses zones un peu défraîchies.
Ouais. On se dirige vers le Rocher de Palmer.
1958, ce disque, il est très large, très contemplatif, très paysager, ultra lyrique.
Mais en fait, on n'a pas du tout de percussion, hein. Parce que les instruments percussifs dans l'album sont des instruments harmoniques, quoi. C'est-à-dire le violoncelle, la guitare, le trombone, la trompette, et ma voix et les synthés, quoi. C'est-à-dire c'est aussi la langue qui apporte la rythmique dans cet album.
Il n'y a pas de peau ?
Absolument, pas du tout.
Et, c'est une volonté, ça ?
Absolument, bien sûr. Parce que je voulais vraiment aussi, peut-être dans ma démarche inconsciente de... toujours avoir une autre approche, d'autres perspectives, c'est de dire que la percussion peut partir de la langue. La langue peut être un instrument percussif. Le violoncelle peut devenir un instrument percussif. Donc c'est à nous de nous réapproprier et de pouvoir faire des choses, sonner des choses comme on veut. On ne nous enseigne pas à devenir tout simplement des créateurs.
Des compositeurs.
Absolument.
Des auteurs.
Absolument, mais plus des interprètes. Et ça, on pourrait être créateur de différentes manières, quel que soit le métier qu'on fait.
On est arrivé devant le Rocher de Palmer. Il y a des palmiers.
J'adore ce lieu.
Des palmiers comme à Nice.
Ouais.
Vous avez joué là ?
Ouais, j'ai joué là et je rejoue bientôt là. Mais surtout, je mène énormément d'activités avec le Rocher de Palmer.
Enchantée, Élise, du coup médiatrice ici au Rocher.
Super, merci de nous ouvrir.
Avec plaisir.
Tu es déjà venue ici ?
Non.
C'est super. Sincèrement, c'est un espace incroyable. Avec 4 super salles.
Ah, il y a des transats. On va se mettre sur un transat.
Ouais, c'est super.
C'est bien comme ça, vous pouvez faire comme si vous étiez chez le psy.
Line after line, colors to my mind. It grows thicker than mine.
Ça vous fait quel effet, Big Bassi, quand vous êtes sur scène ?
Quand je suis sur scène, je vais dans un monde, en fait, spirituel, qui me met dans un état de transe et de communication et de partage avec, avec les gens qui sont dans la salle, quoi. Et donc, oui, pour moi, c'est une sensation de puissance incroyable de pouvoir manger ce que je leur donne, manger l'émotion, de partager ma vibration, de partager mon énergie. Je pense que c'est être vraiment très chanceux de pouvoir avoir la possibilité de vivre ça, quoi.
Vous pensez à qui, parfois, quand vous chantez, quand vous jouez ?
Je suis plus, en fait, à visualiser ce que je dis dans mes textes. Quand dans le texte je parle d'une scène au village, je suis là, je la vois, je la vis, et c'est d'une force terrible, quoi. Et je pleure parce que ce que je dis, il est tellement, je le vis tellement que chaque situation que je chante est réelle, quoi.
Qu'est-ce qu'elle vous chantait, votre maman, Blik Bassi ?
Ma mère, en fait, était complètement animée de musique. Je pense que ma musique vient d'elle, hein. Elle vient, ça, j'en suis totalement convaincu, parce que ma mère, elle chantait pour chaque occasion, c'est-à-dire elle était triste, elle chantait, elle était contente, elle chantait. Quand elle travaillait au chant, on travaillait au chant avec elle, elle chantait. Quand elle faisait la cuisine, elle chantait. Mais vraiment, je pense que ça doit provenir de ma mère, quoi.
Partir du Rocher Palmer, puisqu'on est dans une salle de concert, qu'on est sur des transats et qu'on est dans un lieu de musique. J'aimerais bien quand même que vous me chantiez un tout petit truc a cappella, en bassa.
I saw the baby well in your lipem les long years, baby well bis, bon bis malal bis. Imporo la baby well. In your song, he long years, in your song, the body no joe. By ever so evil, bon best no go, by even gang wap woe. Gay in the I saw the baby well, yum kang, me long years, yum kang, me bon bis, balal bis.
Vous n'avez pas du tout la même voix chantée que votre voix parlée, Big Bassi.
Possible, ouais. Peut-être le placement il est différent. Ouais.
Vous chantez aigu quand même. Hein.
J'ai commencé à chanter très très tôt. Parce que mon père avait l'église et qu'il voulait qu'on chante tous les dimanches, donc très très vite, gamin, ma mère nous enseignait des vieilles chansons chorales traditionnelles qu'on chantait tous, mes sœurs, la famille et moi, quoi.
C'est bien la chorale. La chorale, on fait société en chantant.
Oui, bien sûr. Et puis on s'appuie sur les uns et les autres. C'est comme l'équipe, en fait, quoi. La société devrait s'inspirer de mais bien sûr, de ces manières de faire qu'on retrouve toutes ces choses là où la communauté est importante, quoi. Je pense qu'on devrait vraiment s'inspirer et que l'école devrait s'inspirer de ça au lieu d'être dans la concurrence des uns et des autres. On devrait vraiment s'appuyer et être complémentaires.
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le nouveau disque de Blik Bassi s'appelle 1958. Il sera en concert à La Cigale à Paris le 15 avril. Et son livre, Le Maori Cinéma, vous attend chez vos meilleurs libraires. À la dérive, c'est Aurélie Suez au micro, Bertrand Chompton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade à tous, à Bordeaux et partout ailleurs sur Nova.